Ce message vous est proposé gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message aujourd'hui, je l'ai intitulé « Peut-on aimer son prochain ?» Et donc, on a plusieurs passages de la Bible où on a des exhortations que nous avons déjà certainement lues ou entendues, du moins ici dans notre église, des exhortations à aimer. Une des choses les plus importantes que Jésus nous demande de faire, c'est d'aimer les autres comme lui nous aime. Alors, dans Jean 15, 12, c'est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». Beaucoup de passages, on a « comme je vous ai aimé », mais c'est important de l'actualiser, de dire « c'est pour nous maintenant et nous sommes aimés de Dieu ». On peut aussi se dire que nous faisons partie du peuple de Dieu. Dans Colossiens 3, 12, là vous n'avez pas besoin de chercher chaque fois, je vais vous dire quand on va lire plus un passage plus longtemps. Il nous est dit que nous sommes le peuple de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu, Dieu nous a choisis. Et il nous aime. C'est pourquoi nous devons nous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, de l'humilité, de douceur, de patience. Donc, c'est tout un programme. Galates 6, 2, c'est « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux et vous obéirez ainsi à la loi de Christ ». Et donc là, dans mes petites notes, j'ai mis en caractère plus grand certaines choses que vous avez peut-être notées à votre oreille. Il nous est dit, c'est pourquoi vous devez. À un autre endroit, il nous est dit, vous obéirez ainsi à la loi. Donc c'est obéissance, devoir et rappel et encore. Donc on peut le traiter de cette façon. On peut développer toute notre relation avec Dieu et avec les autres dans une relation de devoir réciproque. Même dans le cadre du couple, ça peut devenir le devoir conjugal, ce qu'on doit faire. Et alors, encore une fois, de choses bien intentionnées pour régler les relations les uns avec les autres, ça devient une espèce de carcan, de choses pénibles et lourdes, et ce n'est certainement pas la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est comme « supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Donc là encore, il faut que je le supporte. On peut avoir toute une façon de voir les choses où tout est négatif, tout est pénible, tout est lourd. Et je ne pense pas un instant que ça a été l'idée de Dieu, ni la pensée que le Saint-Esprit a inspirée à Paul quand il disait « supportez-vous les uns les autres ». Nous faisons des fois cette expérience aussi dans un cadre de compétition sportive. On a des gens qu'on appelle les supporters. Il y a des supporters, ils vont crier et critiquer l'équipe et critiquer les joueurs. Et il y en a qui sont toujours 100% derrière leur équipe. Et ils soutiennent leur équipe, même s'ils jouent mal, parce qu'ils sont des vrais supporters, c'est les passionnés, c'est ceux qui font des milliers de kilomètres toutes les semaines pour les suivre partout où ils vont. Mais je pense que l'idée de Dieu, supportez-vous les uns les autres, ça veut dire, dès que l'un d'entre nous fait quelque chose, si on en entend parler, on lui dit, vas-y, on est avec toi, on t'encourage, continue, persévère, et pas du tout, oh là là, celui-là, celle-là, il faut que je la supporte. Ce n'est pas dans l'idée du tout. Et on y arrive maintenant à notre passage qu'on va prendre le temps de lire ensemble. C'est la parabole du bon samaritain. C'est dans Luc 10, je vous laisse chercher la place. L'autre jour, on avait encore eu l'occasion de rappeler que dans les Actes des Apôtres, il y avait un groupe de Juifs qui habitait à Bérée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Et donc, quand j'ai annoncé la parabole du bon Samaritain, le lecteur attentif de la Bible dira « Non, ce n'est pas la parabole du bon Samaritain. C'est nous qui l'avons rajouté. Le mot « bon » n'apparaît pas dans la Bible. C'est la parabole du Samaritain, tout court et tout simplement.
C'est nous qui avons pensé que cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire qui mérite d'être appelé bon. Jésus lui-même, à un moment, on lui en avait parlé, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il a dit « Un seul est le bon. » Donc, voyons un peu ce qu'il a fait, ce Samaritain. Mais d'abord, le contexte. Verset 25. « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, « Pour l'éprouver. » D'accord ? Donc, déjà mal intentionné. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, remarquez bien, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Parce que Jésus lui dit, « Tu devrais aimer ton prochain comme toi-même. » Mais cet homme n'avait aucune intention d'aimer son prochain. Voulant se justifier, on pourrait dire, voulant trouver des excuses, il essayait d'avoir de savantes explications qui lui permettraient de, on peut, avec un terme moderne, on dit, de déroger à la loi, d'avoir une exception, de pouvoir dire de temps en temps, ah ben non, celui-là n'est pas mon prochain, là je ne suis pas concerné, ça ce n'est pas quelque chose qui s'applique à moi. Et Jésus reprit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Une petite explication. Descendre de Jérusalem à Jéricho est symboliquement l'image de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Jérusalem est la ville de Dieu. C'est là qu'on monte. On monte vers le temple, on monte pour rencontrer Dieu, pour aller apporter les offrandes. Donc quelqu'un qui s'en va de Jérusalem et qui va vers Jéricho, c'est quelqu'un qui est en train de mal tourner. Si jamais en chemin il tombe sur des brigands, ben c'est de sa faute. Il l'a cherché, il s'est détourné de Dieu. Vous voyez le raisonnement ? C'est déjà... Donc Jésus savait pourquoi il le disait de cette façon. Donc il ne, entre guillemets, il n'a eu que ce qu'il mérite. Déjà, il y a une condamnation et un jugement sur lui. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, tiens, un sacrificateur qui descend aussi, ça c'est pas normal, parce que lui, il devrait aller vers Jérusalem et pas descendre vers Jérusalem, donc il est, on pourrait dire qu'il est pas clair. Ayant vu cet homme, passa outre. Alors, certains disent, oh là là, quelle hypocrisie de la part de ces gens religieux, qui s'occupent même pas de cette pauvre personne blessée. Un sacrificateur pouvait se justifier de ne pas secourir une personne, le laissant à demi-mort. À demi-mort, ça veut dire qu'il va bientôt mourir entièrement. Or, dans un respect de la loi, par rapport à sa position de sacrificateur, il devait rester pur pour servir Dieu et ne pouvait pas toucher quelqu'un qui était à demi-mort. Il se serait exclu lui-même de son sacerdoce. C'était contre la loi. Donc, il obéissait à la loi telle que lui l'avait reçue pour ne pas toucher cet homme. Un lévite, donc lévite, encore faisant partie de la tribu de ceux qui servent Dieu, mais, on peut dire, à moindre échelle, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, lui aussi observe cette chose. Dit non, j'ai pas le droit de me souiller au contact de cette personne. Mais un Samaritain, alors là on peut comprendre, Samaritain, quelqu'un qui est en dehors du peuple d'Israël. Ce n'est pas un descendant pur, ce sont des gens qui sont des immigrés qui ont adopté les lois du pays et qui ont été d'une certaine façon assimilés à Israël, mais pas totalement. Il voyagea, étant venu, là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, Des fois, on dit, voilà, c'est bien d'avoir de la pitié, mais la compassion, c'est plus que la pitié. Parce que la pitié, elle voit la situation, elle peut passer outre. Mais la compassion, c'est souffrir avec. Il est saisi au niveau de ses émotions. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se met en action. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui ». Et écoutez bien, il met vraiment le comble. « Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Donc il lui lance un défi extraordinaire et le fait sortir complètement de tous les schémas de pensée. Mais remarquez bien quelle est la motivation de la plupart des gens. C'est d'appliquer une religion au minimum. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter l'enfer mais de vivre ma vie comme je veux? C'est ça la motivation des gens. Qu'est-ce que je peux faire pour rester religieux sans, donc il voulait se justifier, sans être obligé de faire un certain nombre de choses que je ne voudrais pas. Et là, on voit la différence entre une motivation intérieure et une règle extérieure. Donc, qui est mon prochain? Ça, c'était cette fameuse question. Qui est mon prochain? Comment peut-on aimer? C'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Comment est-ce possible? J'ai un ami qui est dans ses prédications, le pasteur Ken Taylor, il écrit toujours OMC. Oui, mais comment? Comment ça va se faire? Oui, mais comment? Et dans Matthieu 28, 18, le message de Jésus à la fin, vers ses disciples, il dit, voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. On connaît tout ça très bien. Et il dit, apprenez-leur à observer. Il n'est pas dit, et dites-leur tout ce qu'ils doivent faire. Il dit, apprenez-leur à observer. Nous avons beaucoup trop de messages où on nous dit simplement, il faut ou il faut pas. Et nous avons besoin, non pas de messages supplémentaires, mais nous avons besoin de modèles qui montrent comment faire. L'apôtre Paul, on voit aussi une progression dans sa vie. Il était pharisien, strict dans sa religion, etc. Et puis, au cours des épîtres, on voit sa transformation. À un moment donné, il trouvait encore que certaines choses étaient un avantage de toute l'éducation qu'il avait eue, tout son passé religieux. Mais à la fin de sa vie, Philippiens, c'est un peu son testament, juste avant de mourir, à la fin de sa vie, il dit, toutes ces choses que je regardais comme des choses importantes, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il avait vécu toute une transformation intérieure. Et c'est intéressant de savoir que dans Éphésiens, une des épîtres vraiment principales de Paul, qui est très très enrichissante pour nous, qui explique beaucoup de choses doctrinales, au chapitre 5, verset 1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Donc ça, c'est une bonne injonction hein, de dire aux gens « Il faut que vous soyez des imitateurs de Dieu. Soyez comme des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Donc, imitez Dieu et faites comme Christ a fait. Donc ça, on peut se le dire. Vous voyez où je vais en venir? On peut se le dire aux uns et aux autres. Et tu devrais être un imitateur de Dieu. Tu devrais faire comme Christ a fait, etc. Tu devrais, il faut, etc. Mais à la fin de sa vie, dans Philippiens, qu'est-ce qu'il écrit? Au chapitre 4 et au verset 9, il dit « Tout ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mais pas seulement, aussi ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Il ne dit pas seulement tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai raconté, tout ce que vous avez entendu de moi, mais il dit aussi ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il y a une progression, il y a des bonnes choses qui peuvent être dites, et il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les églises. semaine après semaine, des bonnes paroles, encore et encore et encore. Mais ce qui manque le plus, c'est des modèles. L'exhortation de Paul à Timothée, c'était que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et il le disait à Timothée quand Timothée était encore jeune. Personne ne méprise sa jeunesse. Donc, un jeune peut déjà être un modèle. Il disait, en foi, en pureté, dans la vérité, en amour, sois un modèle. Nous avons besoin de modèles. Même les gens qui sont païens ou incroyants ou qui n'osent pas faire confiance à Dieu, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne voient pas de modèle, ils voient de l'hypocrisie, ils voient des discours, ils ne voient pas des actes. Ils voient des paroles, mais pour eux c'est des paroles en l'air. Et parce qu'on va y venir tout à l'heure, quand ils n'aiment pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc comment aimer? On a besoin de voir les gens qui disent c'est comme ça que ça marche. Alors je ne vais pas faire le détail, mais si jamais vous avez eu l'occasion, on a déjà parlé là-dessus, il y a des livres qui existent, sur par exemple le livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour, il peut y avoir plusieurs façons d'exprimer l'amour. Comment aimer? On peut le faire par des paroles, et chaque personne l'exprime d'une façon différente. Mais à un moment donné, il faut que ça se concrétise. Des paroles valorisantes. Et là, nous avons des choses pour appuyer ça. Les paroles sont importantes. Mais pas seulement les paroles. Des paroles valorisantes. Valorisantes, ça veut dire qui donnent de la valeur. C'est pas des paroles de flatterie. C'est des paroles où on reconnaît la valeur des gens. Si vous cherchez, vous trouverez des choses de qualité chez les autres. On n'a pas besoin de tout le temps souligner leurs défauts. Ils ont déjà du mal à lutter, s'ils sont sincères et qu'ils veulent changer, ils ont du mal à lutter avec tout ça, mais ils ont besoin de paroles valorisantes. Des paroles d'encouragement. Encourager, ça veut dire insuffler du courage. De la même façon qu'il nous est dit que Dieu, de la terre, il a tiré une forme et il a appelé ça l'être humain, et ensuite il a soufflé la vie en lui. De la même façon, vous pouvez avoir une personne sans courage, vous insuffler du courage. Des paroles aimables. On dit des fois que on peut avoir raison dans ce qu'on dit, mais pas avoir raison de la façon dont on le dit. Donc il faut être aimable quand on parle. Parce que sinon ce n'est pas reçu et ça montre que au-delà des mots, derrière, il y a pas l'amour, mais un esprit de jugement, de condamnation. Des paroles humbles. Comme j'ai dit, la progression de Paul, c'était de se voir toujours plus petit. Toujours plus petit. Et c'était pas une fausse humilité. C'est-à-dire que plus il considérait Christ dans sa vie et ce qu'il avait fait, plus il réalisait ce que lui il avait fait, la grandeur du pardon de Dieu. Et il termine en disant « Je suis le moindre de tous les saints ». Ça, c'est la vraie progression intérieure. De la même façon que Jean-Baptiste voyait aussi la progression de sa vie avec « Il faut qu'il croisse ». Il voyait Jésus arriver, « Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue ». Qu'il y ait un peu comme ces deux vies qui se croisent. Et maintenant, moi, je dois m'effacer parce que l'autre prend le dessus. Ça ne veut pas dire je cesse d'exister, mais c'est une réalité. Donc ça peut être par les paroles, ça peut être par des moments de qualité. On a déjà eu l'occasion une fois je vous ai partagé un petit texte sur la vraie écoute, ce que c'est. Comment on peut ne pas avoir des temps de qualité avec les autres? Quand ils vous parlent, vous pensez déjà à ce que vous allez dire. On ne sait plus écouter. C'est manifester de l'amour que d'écouter vraiment. Parce que, en écoutant, vous prenez du temps pour la personne. Donc vous lui dites, tu es assez important que je prenne du temps pour t'écouter. Et si tu n'es pas important, alors j'ai autre chose à faire. Ne m'embête pas. Et on passe à autre chose. Donc des moments de qualité. La solidarité, dialogue de qualité, apprendre à parler. On peut progresser encore. C'est pas parce qu'on est sorti de l'école à une certaine période de notre vie qu'on cesse d'apprendre. Au contraire, apprendre peut être très intéressant. Si on veut progresser, il faut apprendre. On n'a pas tous les mêmes types de personnalités. Des fois, il y en a qui parlent beaucoup et d'autres ne parlent pas beaucoup parce qu'ils attendent qu'ils puissent s'exprimer. Et tout le monde n'a pas la même éloquence. Vous avez remarqué des fois que quand quelqu'un commence une phrase et s'il cherche ses mots, les autres essaient tout de suite de l'aider. C'est pas pour le mettre dans l'embarras, mais des fois, il faudrait être suffisamment patient pour laisser les autres terminer leur phrase, qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'est important de voir qu'il y a plusieurs sortes de personnalités. D'autres façons d'exprimer l'amour, c'est au travers de cadeaux que vous pouvez faire. Mais certains trouveront que c'est merveilleux d'offrir un cadeau. Ça va être vraiment la plus belle chose, réalisation de manifestation de l'amour. Et pour d'autres, ça ne va pas leur parler. Et le contact, on est dans une société où les gens s'évitent, on vit plus isolé. Et donc le contact, avoir d'ensemble, de qualité. Et les services rendus. Là, on y arrive déjà un petit peu dans 1 Jean 3 qu'on va prendre dans un instant. Si vous voulez déjà chercher le passage dans les Écritures. 1 Jean 3, 18. Les services rendus. Galates 5, 13 disait aussi, par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Rendez-vous des services. C'est ça que ça veut dire littéralement. Donc 1 Jean 3, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Petits enfants, ça c'était la façon de l'apôtre Jean de s'adresser à son public en Christ, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Sans déformer la parole de Dieu, on pourrait dire n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, parce que la parole et la langue sont très importants. Mais il nous est dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et là on arrive aussi déjà, je prends un peu plusieurs pensées comme ça, mais si notre cœur nous condamne, ça fait référence aussi à aimer son prochain comme soi-même, nous renvoie à nous-mêmes. Dans quel état sommes-nous? Est-ce qu'on se condamne soi-même pour quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'aimons pas en nous ou de notre façon de vivre notre vie chrétienne? Alors si des fois on a cette impression que je ne suis pas le chrétien que je devrais être, on tombe dans l'autocondamnation. Notre cœur nous condamne, on ne s'aime plus, et alors on a du mal finalement à exprimer notre amour. Il y a des passages de la Bible qui nous encourage. L'autre dimanche encore dans l'église où nous avons été, on avait entendu ce psaume 139 qui est souvent utilisé. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et les gens un peu l'appliquent tout azimut à tout notre être, esprit, âme et corps. Dans le contexte, le psaume 139 disait quoi? Qu'il était émerveillé de la création de Dieu au niveau de notre corps, comment tout fonctionne. C'est ça que ça veut dire dans le contexte. Et donc les gens disent, ah, mais la Bible dit que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire que je suis parfait, en fait, à tous égards, et tout va bien, et on se le répète comme un perroquet. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu nous a créé, effectivement, il y a une perfection de Dieu dans la création, mais qui a été entachée par le péché et la loi de la mort. Mais d'un autre côté aussi, il y a des choses qui doivent changer, évoluer dans notre âme et dans notre esprit. Et si on ne progresse pas, si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on sera incapable aussi du reste. Donc il faut d'abord se laisser aimer de Dieu, le laisser nous transformer pour pouvoir être capable d'aimer. Mais on n'a pas besoin de dire, bon maintenant ça va me prendre au moins 10 ou 20 ans pour arriver à m'aimer moi-même, plus tard je verrai cette histoire d'aimer mon prochain. On peut travailler dans plusieurs directions en même temps, heureusement. Donc en fait la question de qui est mon prochain que nous avons vu ici, on parle des fois des proches parents. Le prochain, je crois que c'est celui que Dieu met sur notre route ou à côté de nous, et pas dire forcément tout le monde. On n'a pas le ministère du monde entier. Mais la réflexion, c'est aussi que il nous est facile d'aimer ceux qui sont très loin et avec qui on n'a aucun contact. On peut dire, ouais, moi j'aime tout le monde, surtout ceux qui sont à l'autre bout, parce qu'ils ne me blessent pas. Ils ne me font pas de mal, ils ne sont pas dans mon quotidien, ils ne me contrarient pas, tout ce que je ne vois pas, je n'ai jamais de dispute avec eux. Donc, on a l'impression qu'on les aime, mais ça n'a pas de réalité. Et on n'est pas capable de les aimer concrètement et de les aider. C'est pourquoi aussi, quand Paul parlait dans les Corinthiens des divisions qu'il y avait dans l'église de Corinthe, il disait, voilà, il y a des divisions chez vous, vous êtes charnels, vous êtes en train de vous disputer, il y en a un qui dit, moi je suis de Paul, l'autre de Pierre, etc. Et il y en a qui disent, je suis de Christ, et c'est encore pareil maintenant. Il y en a qui disent, oh, moi je ne suis pas d'une église particulière, je suis simplement membre du corps de Christ. Et comme ça, je peux aimer le corps de Christ dans le monde entier sans avoir de difficultés. Surtout si je ne vais jamais physiquement dans une église locale où je rencontre d'autres personnes qui ne sont pas forcément comme je voudrais ou qui m'ont dit une chose désagréable. Mais c'est comme ça quand on est ensemble dans la vraie vie. Eh bien, de temps en temps, il arrive qu'une chose soit même pas intentionnellement désagréable, mais simplement parce qu'on a une autre mentalité, on dit une chose qui déplaît. Hein, ça ne veut pas dire que forcément je suis mal intentionné. Mais la réalité ici, vous voyez, c'est si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il peut nous apprendre à aller par-dessus et nous montrer la réalité du pardon qui est en Dieu. Il connaît toutes choses, ça veut dire il sait comment nous sommes faits. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, ça c'est vrai que si nous avons cet état, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors on peut y aller, on peut dire, là on peut avancer avec lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il est agréable. On ne parle pas de tomber sous la loi et d'appliquer les 10 commandements, bien qu'ils soient bons en soi, mais le commandement, surtout dont Jean parle ici, c'est celui que nous avons lu dans le passage du Samaritain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et c'est ici son commandement. Donc il explique encore une fois que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et ailleurs, il nous est dit aussi que l'amour de Dieu, au chapitre 5 et verset 3, consiste à garder ses commandements et, j'aime cette phrase, ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible d'aimer. Au contraire, plus vous y réfléchissez, que ceux qui veulent rejeter Dieu, quel est le monde qu'il nous prépare? C'est un monde dans lequel on ne peut pas vivre. Puisque on enlève Dieu, on enlève toute la dimension de l'amour, y compris de l'amour, le vrai amour les uns envers les autres. Donc il est important de découvrir comment on peut manifester l'amour les uns par rapport aux autres. Et quand on parle d'amour, on a besoin maintenant de définir tous les... Donc on ne va pas faire une étude détaillée, mais définir les mots. On sait que le texte grec donnait plusieurs différents mots pour le mot amour. Mais nous avons déjà l'explication dans ce que Jésus avait dit en rappel de la loi. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa pensée, toute sa force. Ça veut dire que toutes les parties de notre être sont impliquées là-dedans. Alors, est-ce que c'est un amour sentimental? Oui et non. Il ne peut pas être que sentimental, puisque les sentiments peuvent varier. Donc, on ne peut pas le dire. Par contre, si je disais d'une façon froide, comme ça, tu sais, je t'aime. Et puis, il n'y a rien qui communique, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Les sentiments sont là, Dieu nous les a donnés pour pouvoir exprimer quelque chose. Et ça veut dire qu'on aime au niveau de l'âme. On ne peut pas dire, moi j'aime d'un amour divin, surnaturel, qui se manifeste au niveau de mon esprit. Mais au niveau de mon âme, rien ne se manifeste. Ça ne marcherait pas. Et le corps participe aussi. On parle en anglais, on dit le body language. Là, ça veut dire le corps parle. L'attitude d'une personne, la façon dont les gens se déplacent, la façon dont ils sont regard baissé, ou beaucoup de choses parlent. Donc, c'est tout notre être, esprit, âme et corps qui communique. En fait, ceux qui développent un peu l'observation des gens, ils peuvent vous dire beaucoup de choses sur vous. Hein. Vous pourrez penser à The Mentalist, pour ceux qui connaissent ce personnage, qui passe pour quelqu'un qui a une très forte capacité de voir qu'est-ce qui est dans les gens, simplement par un peu d'apprentissage psychologique et d'observation. Donc, il y a des moments où, en tant que chrétien aussi, on est simplement disciple, on est discipliné, on aime, on se pose pas la question, je dois aimer. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des moments où cet amour se manifeste d'une façon autre, réelle, concrète, au travers de sentiments, de manifestations, de toutes les formes qu'il peut y avoir. Donc il peut y avoir l'amour entre un homme et une femme, il peut y avoir l'amour du style frère et sœur dans une famille, et il peut y avoir simplement de l'intérêt pour quelqu'un. Donc aimer son prochain, ça veut dire que, en fait, je me place dans une position où j'ai compris ce que Dieu veut de moi sur cette terre. Il veut pas seulement me bénir, mais que je devienne une source de bénédiction. Je sais que je ne peux pas être le sauveur du monde entier. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne qui l'est, c'est Jésus. Donc, je ne vais pas non plus me torturer, me tourmenter tous les jours, dire « faut que j'ai encore que je fasse ci, que je fasse ça, que j'aide un tel, etc. » Non, je ne peux pas. Je dois vivre ma vie. Je dois aussi penser, comme Paul le disait à un moment, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour aider les autres. Il s'agit de donner ce que vous êtes capable de donner. Il y a des gens qui ont consacré leur vie, et on les admire beaucoup, du style Mère Teresa ou des gens comme ça, mais tout le monde n'a pas la même vocation. Donc on est appelé à aimer autour de nous, le prochain, les gens qui sont sur notre route. Maintenant, il faut être conduit de voir comment on va aimer d'une façon concrète. Des fois, aimer, ça peut vouloir dire faire l'aumône ou aider concrètement. Mais la Bible nous donne des instructions précises. Il n'est pas dit que tout le monde doit vendre tout ce qu'il a et donner l'argent aux pauvres. Ce n'est pas dit comme ça. Et donc, il nous est dit que si tu peux faire du bien à quelqu'un, fais-le, donne à celui qui a droit. Parce qu'on peut aussi se tromper, des fois, on pense aider quelqu'un, et en l'assistant, on ne l'aide pas à sortir de sa situation. Donc, c'est important pour nous de ne pas vouloir se mettre à la place de Dieu, et de rester dans cette communion. Il nous est parlé de connaître Dieu. Dieu demeure en nous, nous en lui. Et la chose importante par laquelle je termine, il nous est dit, nous connaissons que nous demeurons en lui, tout à l'heure on l'a lu déjà, et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Si on enlève cette partie qu'il nous a donné son esprit, on est de nouveau en train de diriger notre vie seulement au niveau de l'intellect. Or, Dieu sait manifester pour habiter en nous, pour qu'on devienne son temple et qu'on puisse s'aimer les uns les autres et créer ainsi, pour ceux qui le voient, et c'est ça qui est la touche finale, pour ceux qui le voient, l'image de ce que ça peut être le royaume de Dieu. Et là, on termine en disant, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, on voit une différence. Le reste n'impressionne pas tellement, mais là, il nous est dit, on voit une différence. Et c'est Jésus qui l'a déclaré, il a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais il n'a pas dit, tous sauront que vous êtes chrétiens. Il a dit, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire, rappelez, j'ai dit, formez des disciples, montrez-leur comment observer ce que je vous ai prescrit. Comment observer? Au livre des Actes, il nous a dit, le nombre de disciples augmenta. Pas juste des convertis, pas juste des nés de nouveau, mais le nombre de disciples. Donc, progressons dans notre marche dans l'amour. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.